Bonsoir Jean-Pierre Farandou.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de Keolis et vous êtes en ligne avec nous depuis Boston aux États-Unis. Alors pourtant, vous êtes un groupe bien français, un spécialiste du transport public. Si vous avez choisi de présenter vos résultats, notamment à Boston, c'est parce que c'est très symbolique. Vous aviez gagné ce contrat, ça a été très très compliqué au démarrage et puis finalement maintenant ça va un petit peu mieux. Est-ce que du coup ça montre que Keolis est à pleine vitesse?
Oui, nous avons voulu cette année présenter nos résultats annuels à Boston. D'abord pour rendre hommage à notre activité internationale, puisque cette année, c'est la première fois que nos activités à l'international génèrent un chiffre d'affaires équivalent à celui de la France et transportent autant de personnes qu'en France. Donc c'est un cap important. Et puis deuxièmement, c'est Boston, c'est pas un hasard, puisque c'est vrai, quand on a repris ce contrat en 2014, ça a été difficile. On a eu des problèmes économiques sérieux dans les premières années. Et cette année, après 4 ans d'efforts, où nous avons beaucoup travaillé sur l'excellence opérationnelle et sur les solutions innovantes que nous proposons à l'autorité ici à Boston, nous sommes parvenus à l'équilibre et même à gagner un peu d'argent. Donc c'est un bel exploit. En 4 ans, nous avons retourné complètement ce contrat ici à Boston.
Alors quand on regarde vos résultats, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, ça peut être relativement ennuyeux pour nos auditeurs. Ce qui est impressionnant, c'est que ça va très fort. Est-ce que ça veut dire que le transport partagé, la mobilité est tellement en train de se réinventer que vous en profitez à fond, Jean-Pierre Farandou?
On a de la chance, hein. C'est vrai que les sujets de mobilité dans tous les territoires, en particulier dans les grandes villes, se posent de plus en plus. Et ça prouve que les solutions que nous proposons aux collectivités conviennent aux enjeux. Les enjeux, c'est un enjeu écologique. Quelle transition énergétique, quelle source d'énergie pour motoriser les véhicules de transport? C'est un enjeu démographique. Plus de monde dans les villes et une population aussi qui prend de l'âge. Donc, quelles solutions on peut leur proposer? Je crois que Keolis démontre qu'il est capable d'amener ces solutions attendues par les gens qui vivent dans les grandes villes et dans l'ensemble des territoires.
Alors, si on regarde justement les solutions de demain, à quand on va enfin avoir des bus 100% électriques? Quand est-ce que vraiment on enclenche la seconde en la matière?
La seconde, elle est enclenchée, peut-être même la troisième vitesse, puisque les flottes électriques commencent à arriver très fort maintenant dans les réseaux. On a aussi des flottes au gaz naturel, qui est aussi très écologique. Si on donne deux exemples récents, à Orléans, où nous avons renouvelé notre contrat, le président de l'agglomération veut une flotte 100% électrique en 2024, donc on est en chemin pour le réaliser. Et puis, pas très loin de là, à Tours, le choix a été fait sur le gaz naturel, parce qu'il y a des politiques de centrales de méthanisation pour utiliser le gaz produit par les déchets de la ville. Donc, en 2019, on va voir plusieurs grandes villes ou des villes moyennes se doter de flottes électriques. Ça sera très spectaculaire à Amiens, où on a ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service, qui sont des gros véhicules très confortables, des espèces de tramways sur pneus. Et la ville d'Amiens va se doter de 43 véhicules et on va démarrer le service au mois de mai, donc on est très proche. On aura aussi Bayonne et on aura Pau aussi, où Pau fait le choix de l'hydrogène. Donc là, c'est la nouvelle révolution de la mobilité. Moi, personnellement, je pense que l'hydrogène va trouver sa place dans les modes de motorisation. C'est très spectaculaire. D'ailleurs, plusieurs collectivités en France se demandent quel est le bon saut. Est-ce qu'il faut passer par l'électrique? Est-ce qu'il faut aller tout de suite à l'hydrogène? Voilà les sujets passionnants sur lesquels nous travaillons en 2019.
Vous avez l'impression que justement l'hydrogène pourrait prendre la place de l'électrique?
Ben oui, le miracle de l'hydrogène, c'est que ça permet d'avoir des batteries beaucoup moins lourdes à bord. Aujourd'hui, un bus, ça pèse 10 tonnes et vous devez embarquer 3 tonnes de batteries. Donc, on se rend compte que là, il y a un petit sujet de rendement de l'ensemble, sans parler des sujets de charge aussi. C'est très compliqué de charger en même temps énormément de batteries la nuit. Et l'hydrogène, c'est formidable, puisqu'avec une pile à hydrogène, vous pouvez réduire considérablement la masse des batteries embarquées. Donc, vous avez une solution bien plus efficace en matière de masse transportée et aussi beaucoup plus écologique, puisque le résidu d'un moteur alimenté par l'hydrogène, c'est de l'eau qu'on peut boire. Voilà, donc c'est quand même très spectaculaire. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je pense que l'hydrogène a un bel avenir pour alimenter les flottes de réseaux de transport en commun.
Je suis sûr que pas mal d'auditeurs qui sont en train de nous écouter se disent: ça, c'est super l'électrique, c'est super l'hydrogène, mais je vais payer combien mon ticket de bus? On arrive à faire ça au même tarif?
Oui, on y arrive, parce que les collectivités ont bien compris que le transport public doit rester accessible en matière de prix. Et là-dessus, les collectivités françaises sont exemplaires. Elles ont pratiquement toutes développé de ce qu'on appelle des tarifications solidaires, où vous payez le prix du ticket en fonction de vos revenus. Donc il y a vraiment beaucoup d'équité sociale, il y a beaucoup d'accessibilité et bien sûr ces valeurs-là resteront très présentes dans les politiques de mobilité menées par nos grandes villes.
Alors on a parlé de l'électrique, on a parlé de l'hydrogène, mais aussi l'autre révolution, c'est les navettes autonomes. Vous faites déjà des tests maintenant depuis plusieurs mois. On a pu tester ici à Europe 1 ce que vous faites du côté de Roissy. Je crois que vous le faites également sur le campus de Lille, si je ne dis pas de bêtises, avec des navettes autonomes. Ça va véritablement s'accélérer. On va sortir, pardonnez-moi l'expression, mais un petit peu des tests vaste gadget.
À Lyon, par exemple, on a démarré en 2016. Donc ça va faire 3 ans que nous assurons un service de transport public avec des navettes autonomes. Donc on est vraiment dans l'échelle industrielle maintenant. Oui, moi j'y crois parce que les navettes autonomes sont électriques, hein, bien sûr, permettent de faire une logique de ce qu'on appelle le dernier kilomètre pour prolonger la desserte faite par des modes lourds. On le fait dans les villes, on le fait aussi dans des universités, on peut le faire dans des hôpitaux, on le fait dans des grandes entreprises qui ont des implantations très larges. Donc la navette autonome va prendre sa place dans des politiques de mobilité. Et bien sûr, tout ça préfigure dans quelques années le robotaxi. Dans 5 à 10 ans, on aura des taxis autonomes et sans chauffeur qui viendront vous prendre dans les villes.
Alors l'autre grand défi, c'est l'ouverture à la concurrence, hein, de plusieurs marchés. On va avoir une concurrence des bus en Île-de-France et puis surtout on va avoir une concurrence à partir du mois de décembre. Les régions vont pouvoir lancer des appels d'offres pour la concurrence sur les fameux TER. Donc là on est du côté des trains. Vous, Keolis, filiale de la SNCF, a priori vous savez faire, vous allez vous lancer sur tout ça ?
Nous, ce qu'on sait faire, c'est la desserte urbaine ou périurbaine. Donc si un lot ferroviaire mis en concurrence correspond à ce positionnement, on se présentera. En tout cas, on évaluera nos chances de gagner et si on pense qu'on a des bonnes chances, on se présentera. Ça a été discuté avec la SNCF, qui est notre actionnaire principal, les choses sont claires. Donc nous avons notre niche à nous, qui est la desserte des grandes villes, les espèces de RER ferroviaires autour des grandes villes, ça on sait faire. On le fait d'ailleurs ici à Boston, c'est complètement ce qu'on fait ici à Boston. On a appris à le faire. On le fait au Pays de Galles aussi, où nous avons remporté un très gros contrat autour de Cardiff. Ben, ces savoir-faire que nous avons formés ici à l'international, nous sommes prêts à les déployer en France.
Mais au risque des fois d'être concurrent de votre maison mère, la SNCF ?
Non, ça fait partie du contrat moral.
Ça fait partie du deal, ça.
Oui, ça fait partie du deal. C'est Keolis y va, ben, ça veut dire que la SNCF n'ira pas. Ça sera une exception, hein, ça sera souvent la SNCF qui ira. Mais dans quelques cas, Keolis aura le droit d'y aller. Et dans ce cas-là, la SNCF nous laissera y aller.
Enfin, un dernier mot sur le CDG Express. C'est ce fameux train qui va permettre de relier directement l'aéroport de Roissy au centre de Paris. C'est vous, avec des partenaires qui avez gagné le contrat. Ce sera jamais prêt pour 2024, quoi qu'on en dise.
Tout va dépendre du planning des travaux. On a un peu de mou. Si le retard dépasse pas 6 mois, on pourra être prêt pour les Jeux Olympiques. Si ça dépasse 6 mois, on n'y arrivera pas. Voilà,
on sera bientôt fixé. Très 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 tendu, voire quasi impossible aujourd'hui.
Assez tendu. Une fois de plus, ça va dépendre du planning des travaux. 6 mois de mou, on peut faire face. Au-delà, on ne saura pas faire et on fera après les Jeux Olympiques.
Et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en ligne depuis Boston. Un grand merci à Aurélien Fleurot qui a rendu possible cette intervention. Jean-Pierre Farandou, le patron de Keolis, était avec nous. On se retrouve bientôt, 22h20 sur Europe 1.